en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Juriste reconnu comme expert auprès de plusieurs ministères et de l'Union européenne, chercheur et professeur, l'académicienne Mireille Delmas-Marty a traité devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance le lundi 20 décembre 2010 le sujet, en forme de question, « La gouvernance mondiale est-elle démocratisable ?» Et dans cette communication que vous allez entendre, elle commence par s'expliquer sur les choix de ces deux mots. Mireille Delmas-Marty a été élue en mai 2007 à l'Académie des sciences morales et politiques dans la section morale et sociologie où elle a succédé à Jean Cazeneuve, professeur au Collège de France depuis 2002. Elle occupe la chaire études juridiques comparatives et internationalisation du droit. Entrez grâce à Canal Académie dans la salle des séances pour écouter Mireille Delmas-Marty.
En effet, je crois que le mystère du titre va demeurer entier, mais je l'ai accepté comme un défi. Et je l'ai accepté aussi parce qu'il me donne l'occasion de commencer par ce joli mot de gouvernance, repris du vieux français, et qui évoquait d'abord le pilotage d'un navire. Et puis, c'est un mot qui a été acclimaté ensuite au pouvoir féodal du Moyen-Âge anglais et qui s'est marginalisé en France. Peut-être à mesure que s'affirmait chez nous la science du bon gouvernement. Alors, il nous revient depuis une vingtaine d'années, peut-être depuis que la chute du mur de Berlin a ouvert la voie d'une mondialisation, on retrouve l'autre titre, non seulement économique et financière, mais aussi juridique, qui se développe au point de paraître menacer la souveraineté politique. Il nous revient comme une façon de poser, au fond, la question de l'organisation des pouvoirs, mais sans transposer le modèle de l'État-nation, car personne ne veut d'un véritable État mondial. Alors, la commission qui avait été créée par le chancelier Brandt en 1995 définissait la gouvernance comme l'ensemble des méthodes, terme très vague, par lesquelles les individus et les institutions, publiques et privées, gèrent les affaires communes. Autant dire de façon un peu plus provocatrice, une façon de demander qui gouverne quand personne ne gouverne, ou bien comment gouverner sans gouvernement. Alors sur cette question, s'est greffée une seconde, apparemment insoluble. La gouvernance mondiale est-elle démocratisable ? L'intérêt du néologisme, c'est peut-être de mettre l'accent sur la perplexité que cela suscite. Comment la gouvernance mondiale serait-elle démocratisable alors que le sentiment dominant, c'est que la mondialisation conduit à la désagrégation de tout ce qui rendait possible la démocratie. La désagrégation touche d'abord les États qui sont soumis à des interdépendances qui minent l'autorité et la souveraineté nationale. Plus de 50% des choix qui ont des répercussions sur notre vie quotidienne sont faits au niveau européen ou mondial, à tel point que les sociétés dites nationales, eh bien, il ne reste plus de véritable autonomie. D'autant que la désagrégation affecte aussi l'idée même de société, comprise comme un ensemble interdépendant d'institutions qui ont pour fonction de maintenir la cohésion. Sans société, toute démocratie est impossible. Mais comment parvenir à la cohésion sociale quand les réseaux économiques et financiers sont déjà mondialisés, alors que les institutions sociales sont restées nationales et sont tellement affaiblies que certains en viennent à parler d'une rupture avec l'idée de système social. Enfin, la désagrégation, elle est au cœur de l'ordre juridique mondial. Sans paraître d'ailleurs s'en inquiéter, la juriste internationaliste américaine Anne-Marie Slaughter décrit l'ordre juridique mondial comme un ordre désagrégé, disaggregated legal order. Un ordre désagrégé, c'est-à-dire fait de combinaisons de réseaux horizontaux et verticaux, de régulateurs, de juges et de législateurs. Mais elle n'explique pas comment éviter le risque de favoriser de cette manière les asymétries du pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir politique, économique, financier, scientifique, voire médiatique. Alors, le rééquilibrage supposerait sans doute une gouvernance mondiale démocratique en ce sens qu'elle exprimerait non seulement les peuples, mais les citoyens de la planète. Oui, mais à peine esquissée, l'organisation mondiale des pouvoirs est déjà contestée. Elle est contestée de tous les côtés, par les mouvements altermondialistes ou par les courants souverainistes, ou même d'ailleurs par une partie de l'école libérale américaine qui trouve les régulations insuffisantes. Et les crises ? Les crises se succèdent à répétition, je dirais, depuis quelques années. On se souvient qu'en 2005, il y a eu cet échec du traité constitutionnel européen. On avait aussi à l'époque songé à une réforme de l'ONU qui n'a pas été très loin, finalement. On avait aussi, pour les 10 ans de l'Organisation mondiale du commerce, pensé une réforme de l'OMC, l'Organisation mondiale, qui n'a pas pu avoir lieu. Et puis, la fameuse crise économique et financière toute récente. Alors, vu la fréquence et l'intensité des crises, l'ambition d'une démocratisation de la gouvernance mondiale peut sembler démesurée, une utopie lointaine, et pas forcément souhaitée. Mais Jean Béchler nous avait prévenus, et d'une certaine façon, je dirais qu'il nous avait encouragés, dans sa communication, à la fin de sa communication d'ouverture, sur les origines de la démocratie. Il avait dit, une fois en place, la démocratie, même la mieux instituée, organisée et gérée par des politiciens et des citoyens vertueux, marche normalement mal. Elle marche normalement mal. De ce point de vue-là, la gouvernance mondiale a toutes ses chances. Elle marche en effet très mal. Il reste à savoir s'il existe à l'échelle mondiale l'équivalent de ces mouvements que décrivait notre confrère, chaotiques et à peu près opaques aux acteurs et aux contemporains, mais qui ont peu à peu fait émerger, nous disait-il, de façon tâtonnante au début et de plus en plus assurée, les démocraties européennes et occidentales d'aujourd'hui. Alors, si la démocratie mondiale reste une utopie, il me semble qu'on peut en revanche tenter de prendre les crises comme des signes annonciateurs de ces tâtonnements pré-démocratiques. Car au fond, les crises peuvent être ambivalentes. Qu'elles tiennent à la multiplication des acteurs de la gouvernance ou qu'elles expriment l'affrontement des valeurs sous-jacentes, elles révèlent bien sûr des dysfonctionnements, mais des dysfonctionnements qui annoncent parfois peut-être un renouvellement. D'un côté, la multiplication des acteurs publics et privés, on retrouve la définition de la commission chancelier Brandt, entraîne une confusion des rôles. Mais elle prépare peut-être une nouvelle répartition dans une gouvernance qu'on pourrait définir alors comme multidimensionnelle, avec tous les risques, bien sûr, que ça comporte. Quant à l'affrontement des valeurs, valeurs marchandes et non marchandes, valeurs universelles et valeurs particulières, relatives, il y a un risque d'anarchie, mais qui porte en lui peut-être une incitation à une réflexion plus critique sur l'universalisme abstrait qui était postulé par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, une manière de nous obliger à rechercher un universalisme plus concret, que je dirais pluriel et évolutif sans doute. Donc pour essayer de relever ce défi lancé par le titre mystérieux de cette communication, je voudrais partir de cette ambivalence des crises pour tenter de repérer avec quels acteurs et autour de quelles valeurs la gouvernance mondiale pourrait devenir démocratisable. Alors d'abord, avec quels acteurs ? Madame Goyard-Fabre avait parlé des vertiges actuels de la démocratie, elle avait parlé des errances de la souveraineté populaire. À l'échelle mondiale, je dirais que s'ajoute un sentiment de confusion des rôles, sentiment qui tient d'abord à la superposition des acteurs publics, les acteurs qui sont titulaires des 3 pouvoirs institutionnels, exécutif, législatif et judiciaire. Entre les États et les organisations interétatique. Alors, les organisations qu'on connaît depuis longtemps, en matière financière, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation du commerce, l'Organisation de la santé, du travail, mais aussi le programme des Nations unies pour le développement, etc. Et puis, des regroupements plus récents, comme le G8 ou le G20, les relations sont intenses. Mais comme le disait l'ambassadeur Laurent Stefanini, ce qui frappe dans la vie internationale, ce sont les occasions de rencontre des dirigeants. Ces occasions se sont multipliées. Nos dirigeants se rencontrent plus souvent. Mais il ajoutait la question, est-ce parce qu'ils se rencontrent plus qu'ils peuvent agir mieux ? Car le besoin d'État n'a pas disparu, bien au contraire. Mais pour agir mieux, nous manquons peut-être de modèles pour nous représenter l'ordre mondial. Au fond, la difficulté à réformer l'Organisation des Nations Unies a montré que l'ancien modèle international, qui réserve le pouvoir politique aux États, dont beaucoup ne sont pas eux-mêmes démocratiques, il ne faut pas l'oublier, ne fonctionne plus parce qu'il est dépassé par un certain nombre de transferts de compétences au plan régional ou au plan mondial. Mais les crises autour du traité constitutionnel européen et autour de la réforme de l'OMC, l'Organisation du commerce, ont démontré qu'un modèle alternatif, alternational ou supranational, n'existe pas, ou pas encore, ni dans une région intégrée depuis pas mal d'années comme l'Europe, car le traité de Lisbonne a renoncé au terme de constitutionnel, ni dans un domaine pourtant assez consensuel, comme celui du commerce mondial. Alors il en résulte un déséquilibre. L'Organisation des Nations Unies, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, reste marquée par le rôle prédominant des pays vainqueurs, qui sont dotés d'un droit de veto au sein du Conseil de sécurité, qui exerce pourtant l'essentiel des fonctions législatives et exécutives. Et je dirais que même si les groupements comme le G8 ou le G20 assurent un certain rééquilibrage, la gouvernance ressemble alors davantage à une oligarchie qu'à une démocratie. D'autant que simultanément, la fonction judiciaire a évolué. Elle a évolué de façon étrange parce que la Cour internationale de justice a gardé un rôle assez modeste. Elle n'est saisie que si les États veulent bien la saisir. Mais en même temps, s'est affirmée une certaine autonomie des nouvelles juridictions inter- ou supranationales. Et en même temps, je dirais que les juridictions nationales se sont, pour certaines, émancipées du droit interne par application directe du droit international et parfois par l'exercice d'une compétence universelle, civile ou pénale. Au fond, les juges deviennent des pilotes de la mondialisation, même si cette justice mondialisée reste souvent impuissante, à défaut d'un véritable pouvoir exécutif mondial, car le Conseil de sécurité est prudent et l'exécutif est le plus souvent aux mains des États. Mais la confusion, elle tient aussi au rôle accru des acteurs, je dirais, non institués, ce qu'on appelle la société civile, mais l'expression donne faussement l'idée d'une homogénéité alors que c'est une catégorie très hétérogène. Ces acteurs sont porteurs de vouloir et de savoir qui mettent la gouvernance en mouvement. Et au fond, on peut se demander s'ils ne deviennent pas d'une certaine manière eux aussi les inventeurs d'une démocratisation mondiale. Alors au premier rang, bien sûr, figurent les opérateurs économiques privés. L'organisation interne à l'entreprise échappe à la démocratie, on nous l'a montré. Mais en revanche, les entreprises participent à la gouvernance mondiale, ce qui brouille la distinction publique-privée. Le droit des investissements, par exemple, a ouvert la voie avec l'invention des accords de développement économique, les contrats d'État, qui sont régis par le droit international public, alors qu'il ne s'agit pas de relations entre États, mais entre un État et une personne privée. Mais le droit du commerce contribue à ce brouillage. À mesure qu'on découvre à quel point les litiges portés devant l'OMC, considérés comme interétatiques, concernent en réalité de très près les intérêts économiques privés, les entreprises, les consommateurs. Et puis à l'inverse, d'ailleurs, on commence à observer la politisation des conflits privés qui naissent de l'interconnexion des marchés. Mais l'apparition des acteurs économiques, on ne peut pas la dissocier de celle des acteurs civiques. Non seulement ils peuvent intervenir auprès des juridictions internationales à divers titres, notamment comme amis de la Cour, mais ils contribuent aussi à l'élaboration des normes dans des domaines très divers. Ils peuvent être le commerce, l'environnement, les droits de l'homme. Certaines organisations non gouvernementales, coordonnant de multiples antennes dans les différentes parties du monde, sont devenues, on les appelle d'ailleurs parfois comme ça, de véritables multinationales de la solidarité, ou se veulent-elles. Elles se veulent souvent porte-parole de la contestation et deviennent des interlocuteurs des pouvoirs publics, comme des réservoirs d'idées peut-être, tout en ayant leur propre pouvoir d'action grâce à des budgets qui sont parfois considérables. Alors, à condition d'éviter les risques, qui sont nombreux, de clientélisme, d'instrumentalisation, les ONG, comme on dit, pourraient occuper dans l'espace public mondial en gestation aux côtés des entreprises, aux côtés aussi des organisations professionnelles et des syndicats, dont le rôle est depuis longtemps inscrit dans l'organigramme de l'Organisation du travail, la place laissée vacante par l'absence d'assemblée parlementaire mondiale. Il n'y a pas de parlement à l'échelle mondiale, l'assemblée général ne joue pas ce rôle. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'importance des détenteurs de ce que j'appellerais un savoir technique, que sont les experts scientifiques. Dans le débat sur la santé ou dans le débat sur l'environnement, leur rôle est souvent déterminant. Même si la part politique de l'expertise reste cachée derrière la technicité de leur travail, il me semble que la question de l'intégration des sciences et des techniques à la gouvernance est soulevée, qu'il s'agisse du rôle croissant d'Internet, nous en avons parlé ici même, ou de toute une série d'organes nouveaux, dont l'un des plus connus, contesté mais très puissant, est le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, créé en 1988 sous les auspices de deux organisations dépendantes des Nations Unies, le Programme pour l'environnement et l'Organisation mondiale de la météorologie. Le GIEC a sans doute joué un rôle déterminant dans l'élaboration du protocole de Kyoto sur le changement climatique. Et malgré les critiques qui ont conduit notamment le Conseil interacadémique à proposer tout récemment une réforme du statut, il est devenu la référence, à tel point que la conférence de Nagoya sur la biodiversité qui vient de se conclure en octobre dernier a pris la décision de créer un GIEC, c'est devenu un nom commun, de la diversité. Confronté à des pouvoirs politiques qui restent de type intergouvernemental, je dirais que les savoirs scientifiques sont déjà mondialisés, ce qui place les experts en très bonne place, au premier rang peut-être, d'une gouvernance mondiale qui adapterait la répartition des rôles à sa nature multidimensionnelle. Et c'est ainsi, notamment, que la crise pourrait devenir promesse de renouveau. Alors, une gouvernance multidimensionnelle, c'est quoi ? C'est d'abord constater que la multiplication des acteurs n'est pas seulement source de confusion. Elle est aussi un appel à inventer, dans cette période que nous vivons, qui est une période de transition, un modèle de gouvernance ni inter ni supranational qu'on pourrait nommer multidimensionnel, parce qu'il fonctionne avec de multiples acteurs et aussi parce qu'il fonctionne à de multiples niveaux. Donc il répartit les rôles entre ces acteurs publics et privés et il organise ce qu'on commence à appeler un partage des responsabilités de manière à assurer un nouvel équilibre dans les trois domaines législatifs, judiciaire, exécutif, à moins d'imaginer d'élargir des trois pouvoirs classiques tels que nous les connaissons aux cinq pouvoirs qui avaient été théorisés par Sun Yat-sen, on en a parlé il y a quelque temps dans notre compagnie, car au fond, les deux pouvoirs qui étaient ajoutés, c'était le censorat, qui renvoie au rôle des institutions financières, peut-être, et le pouvoir des examens, qui pourrait renvoyer à l'idée de l'organisation d'une expertise scientifique mondiale. Alors, sur ces mécanismes horizontaux et verticaux qui se mettent en place de coopération et de régulation, je renvoie à ce que nous avait magnifiquement exposé Laurent Stefanini il y a quelques semaines, en les présentant tant au niveau régional qu'au niveau mondial. Un mot seulement pour souligner l'importance de principes régulateurs, comme le principe de subsidiarité que nous connaissons bien en Europe, qui au fond fonctionne un peu comme un variateur. Il porte vers plus d'intégration si les États membres n'atteignent pas les objectifs, ou vers moins d'intégration dans le cas inverse. Il complète utilement le principe de coopération et au fond, il permet en Europe de nuancer la primauté du droit européen en fonction des capacités de chaque État à réaliser les objectifs. Je me demande si les mêmes principes de coopération et de subsidiarité ne devraient pas permettre d'encadrer la montée en puissance des juges. En matière de droits de l'homme, au fond, ça s'est fait spontanément. La Cour européenne reconnaît aux États, au nom de la subsidiarité, une marge nationale. Et en matière pénale, le statut de la Cour pénale internationale pose un principe dit de complémentarité qui, en réalité, marque la subsidiarité de la Cour, puisque pour légitimer sa compétence, la Cour doit démontrer que l'État normalement compétent ne peut ou ne veut juger lui-même l'affaire. Alors, il reste les acteurs non institués. Qu'il s'agisse des entreprises ou des organisations non gouvernementales, il faudrait pouvoir préciser les conditions et les limites de leur participation qui se fait en pratique à l'élaboration des textes et à leur mise en œuvre. Il faudrait des précisions parce que ces acteurs représentent des intérêts privés dont rien ne prouve qu'ils garantissent l'intérêt général. Et je dirais que le risque de conflit d'intérêts ne concerne pas seulement les opérateurs économiques, il existe aussi pour les acteurs civiques comme les ONG. Il existe, on pourrait dire même pour le simple citoyen qui participe à ce qu'on appelle les conférences de citoyens en matière bioéthique, par exemple, ou le simple citoyen qui devient sur Internet citoyen reporter. Il peut être pris dans un tel conflit. D'où l'importance de principes comme transparence ou pluralisme. Et puis, il nous faudrait également des principes dans la relation pouvoir-savoir, qui est bouleversée par les nouvelles technologies de l'information et par la mondialisation d'une expertise qui n'est plus seulement judiciaire, qui devient une expertise législative ou quasi-législative. Nous avons vu il y a quelques semaines que la numérisation pouvait contribuer à la démocratie, mais qu'elle appelait une réflexion politique et pas seulement technique sur les critères de ce qu'on commence à nommer la gouvernance Internet. Eh bien, il en va de même de la future expertise mondiale de gouvernance. Si l'on considère qu'en démocratie, le savoir doit inspirer les décisions, mais ne pas produire lui-même les décisions. Ce n'est pas à l'expert de prendre la décision qui relève du politique. Alors l'expertise de gouvernance devrait permettre une élaboration partagée des connaissances, mais alors il faut garantir non seulement la liberté et la compétence de l'expert, mais aussi son indépendance et son impartialité. Et on commence à voir se systématiser les déclarations d'intérêt à propos des experts. Cela dit, la multiplication des acteurs et des pouvoirs implique un partage des responsabilités. Cette question, je l'avais évoquée devant vous il y a 3 ans, et je redirais seulement que la détention d'un pouvoir d'échelle globale, qu'il soit politique, économique, scientifique, médiatique, religieux ou culturel, devrait impliquer le corollaire d'une responsabilité globale. Ça paraît simple. Mais en réalité, c'est une des questions les plus redoutables, car elle est éclatée entre les différentes branches du droit. En ce qui concerne la responsabilité des États pour faits illicites, il y a des années que la communauté internationale essaye de la codifier sans y parvenir. Il y a projet, mais les textes ne sont pas devenus conventions. En revanche, les traités dits sectoriels, l'expression incluant les droits de l'homme, ainsi que d'autres mécanismes spécifiques, par exemple en matière de commerce ou d'environnement, organisent à l'échelle régionale ou à l'échelle mondiale un certain partage des responsabilités. Mais ce sont des dispositifs fragiles. Par exemple, ce magnifique mécanisme d'observance du protocole de Kyoto sur le changement climatique pose un principe des responsabilités communes mais différenciées. qui a d'abord été imposée aux pays industrialisés. Mais précisément, le débat de l'après-Kyoto bute sur la question de l'extension de la responsabilité aux pays émergents. Et l'accord de Cancun, après l'échec de Copenhague, l'accord qui vient de se conclure à Cancun, se borne à prévoir une procédure de contrôle et de vérification qui est définie en retrait du mécanisme de Kyoto comme non intrusive, non punitive et respectant la souveraineté nationale. Alors, attendons de voir ce qui se passera fin 2011 à Durban. Cela dit, la responsabilité mondiale ne saurait se limiter aux seuls États. Vu le rôle croissant des acteurs non étatiques, elle devrait concerner aussi les organisations internationales, les entreprises, les ONG, les experts. Et là, il y a beaucoup de propositions qui circulent, notamment sur la responsabilité des entreprises multinationales. Il y a plusieurs modèles qui circulent, soit l'engagement volontaire sur le modèle des codes éthiques ou du fameux pacte mondial, Global Compact, lancé en 2000, sur la base de 10 principes sur lesquels les entreprises s'engagent, ou alors des modèles plus contraignants, comme le projet de la sous-commission des droits de l'homme repris par un expert indépendant pour des principes de responsabilité. Et dans quelques semaines, en février exactement, je dois participer à la discussion d'un projet de charte européenne des responsabilités sociales partagées qui est lancé par le Conseil de l'Europe et qui vise l'ensemble des acteurs étatiques, non étatiques, avec l'ambition d'éclairer à la fois les États européens, mais aussi de servir de source d'inspiration pour la gouvernance mondiale. Seulement, l'idée même de responsabilité suppose une évaluation des résultats. Or, s'il est possible d'améliorer la procédure d'évaluation, nous sommes encore loin d'un accord autour des valeurs auxquelles il ne faut pas oublier que renvoie le terme d'évaluation. Pour mettre en cause la responsabilité, il faut évaluer. Pour évaluer, il faut avoir des valeurs de référence communes. Alors, on bute là sur la deuxième difficulté. Pour que la gouvernance soit démocratisable, autour de quelles valeurs le sera-t-elle ou le serait-elle? Sur cette question de valeurs, je l'avais évoqué il y a 3 ans et vous m'aviez, à juste titre, reproché de ne pas l'avoir définie au préalable. Alors là, je me référais à la définition que propose Paul Valadier dans son bel ouvrage sur l'anarchie des valeurs, qui est assez large, mais qui me paraît réaliste. Il dit « Le recours à la valeur est un élément essentiel pour rassembler dans une unité provisoire, c'est là qu'il est réaliste, de sens, la diversité des données constitutives de l'action humaine. » Alors, si c'est cela, l'adhésion à des valeurs communes est bien l'une des conditions de la démocratisation. Or, les choix de valeurs restent profondément inscrits dans le contexte et dans l'histoire de chaque nation. Et il est même possible que la mondialisation favorise les affrontements, renforce le sentiment d'anarchie. Et alors, elle risque de conduire à un relativisme désenchanté qui renonce à l'idée même de valeurs communes. À moins, c'est toute la problématique que j'essaye de développer, à moins de rebondir au contraire sur des conflits, en considérant qu'ils doivent nous aider à éclairer la recherche d'un universel pluriel. Mais le constat, c'est d'abord l'anarchie des valeurs. Elle ne tient pas seulement aux conflits bien connus entre droits civils et politiques, droits économiques, culturels et sociaux, parce que ces conflits-là ne sont pas nés de la mondialisation, mais elle est renforcée, me semble-t-il, par une gouvernance qui dissocie à différents niveaux, qui place à différents niveaux de décision des valeurs qu'on a l'habitude de traiter ensemble au niveau national dans les pratiques des États. Ainsi sont dissociées les fonctions traditionnelles du marché, circulation et redistribution, parce qu'on a d'un côté les libertés d'établissement et de circulation des marchandises, des services, des capitaux, qui sont imposées aux États par les institutions économiques et financières au niveau supranational, régional ou mondial, sous un contrôle juridictionnel, d'ailleurs celui de la Cour de Luxembourg pour l'Europe, celui de l'Organisation du commerce pour l'échelle mondiale. Mais en revanche, les droits sociaux relèvent en priorité du niveau national. C'est aux États d'assurer leur protection. Mais la marge des manœuvres des États est affaiblie. Elle est affaiblie par une mondialisation qui met en concurrence les systèmes de droit. Ce qui fait que pour attirer des investisseurs, Il vaut mieux réduire les protections sociales. C'est d'ailleurs le conseil qui était donné par la Banque mondiale dans ses rapports « Doing Business ». Alain Supiot, qui est le grand spécialiste de ces questions, cite le rapport de 2005 qui considérait les salaires minima fixés pour certains pays africains à 20 dollars par mois comme excessifs et qui pénalisait ce choix. De même, une limitation à 66 heures par semaine de la durée du travail. Donc, on a une sorte d'aggravation des exclusions sociales qui paraît contrastée avec les progrès de la prospérité mondiale. C'est le paradoxe de la prospérité tel que l'évoque notre confrère Bertrand Collomb. Le paradoxe, c'est que la prospérité accroît les écarts dans un certain nombre de pays, y compris des pays émergents, et parfois, on dit aussi les écarts entre États. Il cite des chiffres dans son ouvrage. À cette dissociation par niveau s'ajoute la fragmentation entre différents secteurs. Par exemple, les accords de l'Organisation du commerce privilégient le commerce et les valeurs marchandes, sans référence aux droits de l'homme, sans référence à la protection sociale. Certes, il y a une petite référence à l'environnement, mais l'environnement est une préoccupation secondaire pour les accords de l'OMC, qui est assurée à titre d'exception, c'est-à-dire que les États peuvent invoquer la défense de l'environnement, mais l'exception n'est admise que si elle est nécessaire, ce qui oblige les États à démontrer ce qu'on appelle un test de proportionnalité, ce qui restreint la possibilité d'utiliser l'argument. Cela même en présence de textes précis, comme l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Les subventions ne sont admises pour les énergies renouvelables, ce qui est favorable à l'environnement, que si elles portent sur des produits similaires. Or, les critères d'appréciation privilégient en fait les perceptions du consommateur, ce qui veut dire qu'il y a un transfert du pouvoir politique du citoyen au consommateur qui finalement devient le futur citoyen du monde. Alors, c'est un peu la même chose pour les ajustements fiscaux, je n'entre pas dans les détails techniques, mais je dirais qu'en définitive, la gouvernance mondiale est fragmentée à la fois par niveau et par secteur, et le problème en termes de valeur, c'est que chaque fragment se mondialise à son propre rythme. C'est l'effet pervers d'une gouvernance à plusieurs vitesses. La gouvernance économique et financière s'est mondialisée plus vite que la gouvernance environnementale et plus vite que la gouvernance sociale. On peut y voir une incitation à guider la gouvernance vers une harmonisation, à la recherche d'un universalisme qui, au stade actuel, ne peut être que pluriel et évolutif. Alors, dans cette recherche, je ne reviendrai pas sur l'objectif plus ambitieux tel que je vous l'avais présenté il y a 3 ans, d'une véritable hiérarchie des normes qui supposerait, à l'échelle mondiale, quelque chose qui est encore très lointain, soit l'opposabilité des instruments de protection des droits de l'homme à tous les acteurs et dans tous les secteurs, soit la reconnaissance du jus cogens, qui consiste en droit international à considérer certaines dispositions comme impératives, mais dont nous savons que la définition est incertaine et l'application tout à fait exceptionnelle. Alors, au stade actuel, les pratiques démontrent que nous avons besoin de méthodes plus souples, des méthodes qui permettraient l'harmonisation plutôt que l'unification, c'est-à-dire le rapprochement plutôt que l'identité absolue, des pratiques qui organiseraient la polychronie dans le temps plutôt que la synchronie. Elles ont plus de chances d'être admises et mises en application à partir de principes qui permettraient de combiner ou de concilier des valeurs diverses, que j'appelle des principes combinatoires. Je vais vous en donner 2 exemples. Le premier bien connu, c'est celui du développement durable, ou plus exactement, équitable et durable. Expression qui tend à concilier développement économique, développement humain et protection de l'environnement. Autrement dit, concilier valeurs marchandes et non marchandes. Alors, on sait que c'est une expression qui est apparue dans le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement présidé par Mme Gro-Brundtland en 1987. Elle avait été ministre de l'Environnement avant de devenir Premier ministre de la Suède. Et le rapport remis à cette date définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 2 piliers, deux notions sont ajoutées, l'équité et l'intérêt commun. Alors, c'est un principe qui va inspirer le dispositif sur le changement climatique que j'ai évoqué en parlant du protocole de Kyoto. Ça remonte en fait à la Convention de Rio. Ce qui est intéressant dans le travail qu'avait fait Mme Brundtland à l'époque, c'est qu'elle montre que la durabilité n'est pas un concept abstrait. Il s'agit de trouver un équilibre entre la planète et ses habitants pour répondre aux graves problèmes de pauvreté tout en veillant aux intérêts des générations futures. Concilier développement durable et équitable, c'est ouvrir la voie vers un universalisme qui tienne compte du contexte historique, géographique, économique et culturel de chaque pays. Mais ce n'est pas une formule magique. Et l'adhésion au principe n'a pas empêché le blocage des négociations à Copenhague, ni permis un accord à Cancun entre les pays industrialisés, les pays émergents et les pays en développement. De même, en ce qui concerne le second exemple, ce sera mon dernier exemple, le principe de l'égale dignité des êtres humains, principe majeur qui est inscrit à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui est supposé marquer l'indivisibilité entre tous les droits de l'homme. Mais la Déclaration universelle ne donne pas le mode d'emploi pour dire comment faire en pratique pour concilier les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, et plus largement, comment faire pour concilier universalisme et diversité culturelle. Alors, c'est là qu'il faut introduire le facteur temps. La Déclaration universelle n'est que le début d'un processus qui recherche l'harmonisation autour des deux pôles que sont l'égalité entre tous les êtres humains et la dignité humaine. Principes communs, même s'ils sont conçus différemment d'une culture à l'autre. En fait, la clé de l'harmonisation, c'est une approche dynamique des droits culturels qui font au fond la liaison entre le côté civil et politique et le côté économique et social, et qui privilégie une approche dynamique donc des droits culturels, privilégiant non seulement l'identité et la créativité, mais aussi la communication. L'identité, la créativité obligent à un approfondissement de chaque culture. La communication favorise les interactions entre cultures. Donc ce que j'appellerais une humanisation mutuelle, une humanisation réciproque. C'est ainsi que le principe a été intégré au dispositif de l'Organisation internationale du travail, à travers le concept de travail décent. C'est ainsi qu'en France, le principe a été associé à la lutte contre les exclusions, la loi de 1998 et les lois qui ont suivi sur la couverture médicale universelle et le droit au logement opposable. Plus loin de nous, en Afrique, le principe a inspiré une importante évolution des droits des femmes. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples admettait des pratiques coutumières discriminantes. Elle date de 1981. Mais la situation a évolué avec un protocole additionnel sur les droits des femmes qui est entré en vigueur fin 2005, qui interdit un certain nombre de pratiques, notamment les mutilations sexuelles féminines. Interdiction absolue qui les place au même niveau que la torture et qui crée un nouvel interdit indérogeable soumis au contrôle potentiel de la Cour africaine des droits de l'homme. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que la conciliation entre la diversité des cultures et l'universalisme des valeurs n'a pas été imposée du dehors. Elle a été négociée par les intéressés elles-mêmes au sein de l'Union africaine. C'était un travail d'approfondissement de leur propre culture. Alors, au fond, dans l'esprit de ce que François Host, qui est venu nous parler il y a peu de temps, ce qu'il appelle le paradigme de la traduction, les principes combinatoires, comme l'égale dignité ou les principes relatifs au développement durable et équitable, ce type de principe devrait nous permettre d'éviter deux modèles extrêmes. Éviter le modèle relativiste radical, une gouvernance qui resterait purement interétatique, ancrée dans la conviction que les structures profondes des nations sont incommensurables entre elles. Le risque du modèle purement ou radicalement relativiste, c'est de conduire au chaos, vu les interdépendances de fait qui unissent nos sociétés, ou en tout cas qui les rapprochent. Mais il faut aussi éviter l'autre modèle extrême, qui est le modèle universaliste dans sa forme absolue. Il nous donne une illusion de pouvoir dégager des structures uniformes sous le foisonnement apparent. Le risque, on le voit très clairement, c'est de nous conduire la gouvernance à un totalitarisme, qu'il soit politique, économique, voire médiatique. Alors, pour démocratiser la gouvernance mondiale, il faut peut-être inventer un nouveau modèle, que j'appellerais pluraliste et multinational, ni inter, ni supra, mais multinational ou transnational. Un modèle qui nous mènerait par-delà le relatif et l'universel vers un universel pluriel et évolutif. La voie pour y parvenir est longue, elle est incertaine, elle sera tâtonnante, mais elle me paraît nécessaire si on veut éviter à la fois le chaos et le totalitarisme. Alors pour conclure, je voudrais redire que si le bien commun est le but ultime de la démocratie, on ne saurait le trouver par la seule recherche des moyens politiques, juridiques et économiques. C'est ce qui nous a enrichis tout au long de ce cycle, extrêmement varié par les communications que nous avons entendues, c'est que la démocratisation a aussi une dimension culturelle, voire spirituelle. Autrement dit, la gouvernance mondiale ne doit pas se limiter à assurer la survie de l'espèce dans un monde uniformisé, mais elle doit inventer les voies et moyens d'une mondialisation qui accompagnerait le lent processus de l'humanisation. Et au fond, cette gouvernance mondiale, elle pourrait prendre pour devise cette devise qui a été dédiée à notre président à la fin du déjeuner ce jour même, « Vérité au-delà, vérité en deçà ». Merci.
Vous venez d'entendre Mireille Delmas-Marty, une communication prononcée à l'Académie des sciences morales et politiques. Cette communication clôturait l'année 2010 à l'Académie, durant laquelle le président de l'année, Jean Ménard, a proposé la démocratie comme thème de réflexion à l'ensemble des académiciens lors de leur séance publique. Vous trouverez sur Canal Académie la retransmission de la majeure partie de ces séances et certains textes publiés sur le site de l'Académie www.asmp.fr vous permettront de lire l'intégralité des communications. D'autres émissions vous sont proposées sur Canal Académie avec Mireille Delmas-Marty, sur son épée d'académicienne, sur son livre « Liberté et sûreté dans un monde dangereux », sur son travail autour du droit et même sur la notion de crime contre l'humanité. Merci d'avoir choisi Canal Académie. À bientôt.